Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle heure de Parler Temps qui court. On écoute les artistes pendant une heure tous les soirs. Ce soir, nous sommes ravis de recevoir Eric De Luca.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es
ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richet avec Eric De Luca.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Les mots sont l'instrument des révélations et écrire peut consister à faire un peu de place à des êtres qui n'en ont que là, dans les lignes, dans les phrases, dans l'imagination. Eric De Luca, votre dernier livre, Le Tour de l'Oie, imagine un soir qui s'ouvre, après l'orage, sans électricité, près du feu, et qui fait entendre la voix d'un fils. C'est un fils sans père, un fils apparu pour questionner l'existence, l'amour, les choix, les engagements. Un fils comme un faux miroir auquel se confronter dans le silence. Un fils qui n'aurait pas pris la responsabilité d'un corps de chair et d'os, mais qui aurait ses mots à dire. Un fils qui jouerait à qui existe le moins. Et un fils que vous laissez partir, en vous-même, en nous-mêmes, à la fin. C'est un texte que vous voudriez pouvoir glisser dans l'espace-temps d'un battement de nos cils. Eh bien, ça marche. Bonsoir à vous, Eric De Luca.
Bonsoir. Bonsoir, merci.
Soyez le bienvenu. Le Tour de l'Oie est traduit vers le français par Daniel Valin. Et il paraît ces jours-ci aux éditions Gallimard.
Sitôt dit, sitôt fait. Le père Lacerise prit immédiatement sa hache fraîchement affûtée pour commencer à lui ôter l'écorce et à le dégrossir. Mais au moment où il allait donner le premier coup...
Même comme pas trop fort, s'il te plaît, même comme pas trop fort.
Hein, vous savez, c'est encore mieux. Hein.
Imaginez la tête que fit ce bon vieux père Lacerise. Il jeta un regard stupéfait à travers toute la pièce pour voir d'où pouvait bien sortir cette petite voix.
Je ne sais de quelle mère tu pouvais venir au monde, fils que je ne peux dire mien. Ce soir, tu écoutes, tandis que je te parle. D'autres fois, je parle à une assiette, dans mon verre, au mur. La voix sort désireuse d'en écouter une. Ce soir, tu es présent. C'est à toi que je parle. Je lisais un livre où un vieil homme s'invente un fils. C'est un menuisier, et il le fait en bois. Il aimait l'idée qu'on l'appellerait papa. Tu es apparu comme ça, côte d'une autre histoire, fils de quelqu'un qui joue avec les mots. Matière qui ne vient pas d'un arbre coupé. Le papier sur lequel j'écris, lui, oui. Tu es adulte. Je ne sais pas comment tu étais avant. Je ne t'ai pas grondé pour un jeu dangereux quand tu étais petit, ni mesuré la température sur ton front. Ce soir, nous nous trouvons à table. Pour dîner. Quand j'étais jeune, une femme m'a dit qu'elle avait avorté. J'ai gardé le silence. Je ne comptais pas dans sa décision prise et suivie. Nous étions ensemble avec une foule de jeunes de notre âge. C'était un amour et un temps qui ne pouvait s'occuper d'une vie privée. Une grossesse voulait dire alors donner un fils en pâture au monde. Tu n'es pas ce fils. Bout de vie en voyage, retiré à la cuillère. Ensuite, elle n'a plus pu en avoir. Tu es un étranger, fils. Autant que la lune dans le ciel le matin, qui reste encore après le déclin de la nuit. Je te raconte un peu de vie qui a filé. Mon père, ton grand-père, depuis qu'il était presque aveugle, disait qu'il sentait les nuages de la pointe de ses cheveux. Les caresses passent sur le crâne de ceux qui ne peuvent les voir. À nous, ses enfants, il nous fit signer chez le notaire notre renoncement à son héritage. Il se dépouilla de toute possession. Il me demanda de signer. Je lui dis qu'il était impossible de renier son héritage de livres, de montagnes, de langue italienne et ses leçons sur la vanité des questions d'argent. Il me demanda de signer. Je fis ma plus fausse signature.
Éric de Luca, Romain de Bec de Lièvre lit le début de votre livre, Le Tour de l'Oie. Pas exactement, parce qu'il y a un tout petit prologue à ce texte-là. Est-ce que c'est ainsi que l'écriture a commencé? C'est-à-dire, vraiment, en lisant Pinocchio et en laissant apparaître un fils?
En lisant Pinocchio, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup lire. Et plus je vieillis, et plus j'apprécie cette langue italienne esquisse. C'est magnifique à la mâchoire. Et c'est beau à la dire. C'est croustillant. Mais j'ai commencé à écrire une page sous forme de poésie. Je voulais écrire une courte poésie à un fils inconnu. Et le jour après, j'ai commencé à recopier cette page et je me suis aperçu que je voulais parler à la ligne. Je voulais la mettre en prose. Et de là, c'est déclenché le reste. Une consécution de souvenirs, de divagations, de passages à travers des cases de la vie comme des cases du jeu de loi. Avec cette impression de n'avoir pas été mangeteur de dés. Avec les choses qui ont mangeté d'une case à l'autre, a été tout simplement la présence, l'importance d'un siècle géant comme le XXe siècle. C'est un siècle révolutionnaire. Avec cet outil politique des révolutions, se sont renversés des empires coloniaux, se sont formés des nations libres, indépendantes. Quand je suis grandi, la jeunesse du monde autour de moi était en révolte. Donc, je n'ai fait que obéir à l'appel de cette jeunesse qui était déjà dans les rues. Je l'avais pas suscité moi-même. Et après, j'ai fait une vingtaine d'années ouvrière, de vie ouvrière, mais qu'il me l'aurait jamais dit ou programmé cette démarche. Et après, tout ce qui s'est produit est venu d'un déplacement d'une case à l'autre qui dépendait de ma liberté d'obéir à certains appels.
On y reviendra d'ailleurs parce qu'Éric de Luca, vous écrivez une sorte de désir d'impuissance comme une manière de se remettre à quelque chose de plus fort que vous, de plus hasardeux que vous. Mais dans ce passage-là, vous dites aussi accepter d'avoir un fils au moment où j'aurais pu le faire, au moment où j'étais en couple, jeune, où ça s'est présenté, c'était jeter un être en pâture. Alors même si la décision ne vous a pas appartenu de continuer ou pas cette grossesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui refusait d'avoir un
pas
fils.
Pas à moi. C'était une génération qui s'était si totalement engagée dans les rues et dans la lutte politique publique, si nous étions une organisation révolutionnaire publique non clandestine, que l'idée de le militantisme était si absorbant de notre vie que l'idée de faire quelque chose, faire un fils, c'était quelque chose de regarder une vie privée, mais nous n'avions plus une vie privée.
Ce qui est paradoxal, parce qu'on peut considérer que quand on s'engage dans une lutte publique, on s'engage aussi pour le futur, pour un monde de demain. Et donc ne pas faire d'enfants, c'est faire quoi? C'est travailler à un monde futur, mais pas aux êtres qui le peupleront.
Et c'est l'idée d'être des outils employés par le monde futur, mais pas des générateurs du monde futur.
Donc vous laissiez les autres faire des enfants?
Oui. Et ce sentiment d'être utile, un instrument, un instrument, je l'ai retrouvé après. Quand je me suis trouvé à être incriminé par des questions de soutien à une lutte de la Val de Susa, de cette vallée. Et alors j'ai été incriminé pour des choses que j'avais dit et que j'ai redit. J'ai continué à redire parce que je l'ai pas nuancé ces choses-là, je l'ai approfondi.
Vous avez d'ailleurs écrit un livre pour dire combien est-ce que cette parole était importante.
Et donc ce procès a produit le fait que cette lutte, petite lutte, mais courageuse et décennale, cette petite lutte a pu être écoutée mieux. Donc, je me suis aperçu d'être un outil, d'être devenu involontairement un outil d'amplification de cette délirion, de cette lutte, de la voix de cette lutte. Donc, quelqu'un dit, mais tu n'as pas la conscience d'être instrumentalisé. Mais c'est exactement ce que je peux faire. peut faire l'outil d'un amplificateur de relancer plus loin le signal d'une lutte qui n'est pas écoutée. Dans un passage de l'Écriture sainte, dans le Proverbe, il y a ce vers qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Qu'est-ce que ça veut dire le muet ? C'est pas quelqu'un qui a un déficit aux cordes vocales, c'est quelqu'un qui dit mais personne l'écoute. Ou quand on l'écoute, on le malentend, on le calomnie, on le change les mots dans la bouche. Et donc j'ai pu faire exactement ça, être la ouvrir ma bouche pour le muet, pour cette lutte qui était muette et maintenant ne l'est plus.
Dans ce passage encore, on entend, parce que vous le racontez, que vous refusez de nier un héritage, que vous apposez une fausse signature sur un texte qui vous demande de ne pas hériter de votre grand-père. Parce que pour vous, la question de la filiation et de la transmission est une question importante, Éric De Luca. Et alors ce texte-là, le tour de loi, ça veut dire que vous vous interrogez vous-même sur ce que vous transmettez ?
Oui. Je ne pouvais pas nier l'héritage de mon père. J'ai pu l'écrire pour le notaire. Pour un acte public, mais comme personne, j'ai reçu de mon père l'ambiance où je suis grandi. Ça veut dire les livres, parce que je suis grandi dans une chambre pleine de livres, et c'était le livre de mon père. Et il m'a appris à regarder les montagnes avec une certaine tendresse. Il était quelqu'un qui avait fait le service militaire pendant la guerre sur les montagnes, sur le front grec albanais. Et donc, de ce temps maudit de sa vie, il avait remporté simplement un sentiment d'affection ou de gratitude envers les montagnes qui m'a transmis. Et donc, quel est l'héritage ? J'ai l'idée que l'héritage n'est pas relever l'argent et les propriétés des proches, mais relever leurs dettes. Ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, mon père est devenu. Je suis devenu montagnard et alpiniste parce que mon père aimait les montagnes. Je suis devenu écrivain parce que mon père aimait les livres. Et voulait lui aussi écrire quelque chose, mais n'arrivait pas à le faire. Donc, on hérite un certain désir suspendu, rester suspendu. Ça, c'est un héritage pour moi.
Et alors, s'inventer un fils un soir comme ça à la lueur d'une flamme, c'est se demander ce que éventuellement on pourrait constituer pour héritage pour une génération suivante ?
Non, pas pour une génération suivante. Mais quelle figure pouvait être plus de droit de m'interroger ? Plus d'un magistrat et plus de n'importe qui. Quelle figure pouvait m'interroger sur la vie écoulée, un fils ? Un fils que je rencontre un soir seulement.
Et adulte.
Adulte. Et auquel je dois des justifications.
C'est comme ça que vous l'avez vécu. Écrire ce livre, c'est donner des justifications sur votre propre existence.
Si. La justifier. La justifier aux yeux de quelqu'un qui a le droit de m'interroger sur ça. Vous savez, j'ai reçu aussi des interrogations de la part des magistrats. Mais ce ne sont pas des questions, celles des magistrats. Ou bien, je peux dire que j'ai étudié le latin, non ? Et le latin a des verbes pour indiquer la question, questionner. Il y a un verbe pour savoir, chercher de savoir. Et s'il y a un verbe qui prétend obtenir avec la question. C'est le verbe pétere, veut obtenir. Qu'est-ce que veut obtenir ? La confirmation des accusations. Savoir déjà ce qui s'est produit et donc extraire une confession, une confirmation des soupçons. Et l'autre, c'est le verbe de la question. Demander pour savoir ce que vous faites maintenant avec moi, que c'est un privilège. Je sais que c'est un privilège de recevoir des questions de ce genre.
Quand vous écrivez des questions imaginaires pour ce fils imaginé, Éric De Luca, vous avez l'impression d'être dans une position qui est... Confortable ou inconfortable ?
Inconfortable. Inconfortable, mais la position est confortable parce qu'on est à la table. Et donc on mange ensemble et on boit quelque chose, on boit un peu de vin ensemble. Donc la situation est un soir sans électricité, avec une bougie, chose qui se produit souvent chez moi parce que j'habite dans la campagne. Et donc la situation est confortable, mais ma position face à cette personne, à ce fils, devient... de plus en plus inconfortable.
Parce qu'au début, vous commencez et puis votre parole est libre puisqu'il ne parle pas. Et les pages passent et on a l'impression que vous allez vous-même, Éric De Luca, écrire une sorte de monologue à une figure de fils absent. Sauf qu'il se manifeste. Il se manifeste par ces mots qui sont de l'humain. Et c'est lui qui vous répond dans un premier temps. Comme si vous étiez, à proprement parler, surpris. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé dans l'écriture? Est-ce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il y ait des phrases en gras et qu'il y ait un fils qui parle vraiment?
Exactement, exactement. C'est sa manifestation physique, la voix. Et de la voix, après, il commence à prendre une consistance majeure, physiquement majeure, plus évidente. Mais la voix, c'est la manifestation physique la plus importante. La voix, même des personnes qui n'est pas en face de vous. En tant qu'enfant, j'ai écouté les voix des femmes de Naples qui parlaient de la guerre à travers des murs et des portes qui fermaient mal. Donc, je recevais des voix. Et ces voix avaient la force de procurer une immédésimation physique. À travers leur voix et leur modulation de fréquence de leur voix et de leur amertume ou gaieté, il y avait toute une manifestation physique à travers la peau, l'ouïe, le goût, le nez. Je pouvais voir ce qu'elle disait. C'était le prodige de la voix. Et quand j'ai trouvé dans l'écriture sainte que cette divinité dit, parle, ça c'est sa manifestation physique. Il n'écrit pas seulement, il dit, il parle, et à travers son dire, il suscite les choses. C'est pas tout simplement un instrument de communication, c'est une voix qui fait avenir les choses. Tous les six jours de la création sont précédés par la voix de la divinité qui dit, par exemple, soit la lumière, non, et il doit dire soit la lumière pour que la lumière soit.
D'abord le verbe,
mais le verbe est directement la chose accomplie, est directement la lumière possible. Donc c'est ça qui se produit à travers la voix. Sa voix fait avenir la chose, sa présence physique.
Il y a beaucoup de choses qui procèdent de cette manière-là dans ce texte Éric De Luca, comme des réminiscences et souvent sonores. Je pense par exemple à la manière dont vous décrivez le son de la mer, les vagues, le vent, les éléments. Dans les quatre premières saisons de votre vie, où vous décrivez une maison auquel on arrive par de longues marches, isolée, et vous dites que peut-être votre présence au monde, elle a été déterminée par le fait d'avoir entendu pendant quatre saisons, la première année, le son de la mer. Ça, c'est quelque chose qui est revenu en écrivant le texte? Ce son comme primordial?
Oui, si, si. Pour moi, est primordial quand je passe en voiture, face sur une côte, sur un rivage au bord de la mer, je dois m'arrêter et je dois descendre. J'ai une attraction vers et plus est puissant le bruit, et plus j'ai cette attraction.
Comme votre propre respiration, d'une certaine
manière. Si, c'est une respiration. C'est un souffle qui se produit avant et arrière. Et qui n'est pas le mien. Même le souffle n'est pas le mien. Parce que c'est de l'air qui entre et qui ressortit. Qui entre et ressortit. Et c'est ce qui, de ça s'aperçoit David dans son psaume. Il, à la fin de sa vie, il dit que dans ta main, je suis en train de confier mon vent. C'est le souffle. Mais pourquoi il dit le vent? Parce que c'est le vent qui est entré au début de la naissance, dans les alvéoles fermées du bébé, entre l'air et force la clôture des poumons et commence à faire avenir ce aller-retour, ce piston de la vie à l'air ouvert.
Il y a plein de choses qui concernent justement la naissance, la toute petite enfance, même les souvenirs de ces premiers moments. Éric De Luca, est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie d'homme, puisque c'est quand même quelque chose que questionne votre texte, où vous avez regretté de n'avoir pas d'enfant?
Non, parce que je sais que je ne pouvais pas faire des enfants. J'ai regretté que quelques femmes avec lesquelles je voulais rester plus longtemps... Ils ont refusé de poursuivre. Et donc, j'ai regretté cette possibilité, mais pas l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose que j'aurais pu imaginer seulement à travers elle.
Oui, je crois que la fente doit être fidèle à l'imagination. C'est-à-dire que si on écrit quelque chose qu'on ne s'imagine pas, alors cela est faux, même si c'est historiquement vrai. Tandis que si on est fidèle à son rêve, à son imagination, alors on est un écrivain sincère. Sinon c'est du trucage, de la simulation, je veux dire.
Vous employez le mot de sincérité, est-ce que le vrai a lieu dans votre œuvre ?
Oui, je me crois que l'on soit sincère ou que l'on soit vrai, parce qu'on dit, on appelle les choses par leur nom, ou on place des dates justes. Non, il faut être fidèle à son imagination. C'est-à-dire, si je peux m'imaginer quelque chose, je peux l'écrire. Si je ne peux pas l'imaginer, alors c'est simplement impossible. La littérature n'est pas un art combinatoire de mots. C'est plutôt un art de l'imagination. Et puis après, vient le langage, vient le mot, vient le symbole. Mais on commence par imaginer quelque chose. Si on a senti quelque chose, si on a subi quelque chose, il faut que tout cela se transforme dans un poème ou dans une nouvelle. Cette esthétique-là serait le contraire du réalisme. Ou c'est un réalisme différent, un réalisme subjectif, un réalisme mental ou imaginatif.
C'est une archive de Borges en 1978 dans les Entretiens avec, une émission diffusée sur France Culture à l'époque. Éric Deluca, vous parlez à plusieurs reprises avec ce fils qui est apparu pour le texte de ce que c'est que d'écrire des livres, de ce que c'est que d'en lire, et vous lui racontez combien, d'une certaine manière, vous avez parfois cultivé des ignorances en passant à côté de certains auteurs, mais pas à côté de Borges. Pourquoi est-ce que, selon vous, il ne faut pas passer à côté de Borges ?
Ah, c'est un effet personnel de lecteur. Je suis beaucoup plus lecteur qu'écrivain. Pas seulement pour une question de quantité de pages, mais parce que, comme écrivain, je peux arriver jusqu'à un sentiment de satisfaction par paresse. Ça veut dire que j'arrive à m'apercevoir que mieux que ça, je ne peux pas l'écrire, ces pages. Et alors je m'arrête. Et alors ça, c'est un sentiment de satisfaction qui me permet de prendre congé. Mais en tant que lecteur, j'ai la possibilité d'avoir des merveilles, des surprises, des sursauts de bonheur qui est impensable quand j'écris. Donc Borges est celui qui m'a donné en prose la majorité des enthousiasmes de lecteur. En général, je préfère les poètes. Mais Borges était aussi poète. Et donc j'ai apprécié même les poèmes de Borges. Borges est quelqu'un qui a voulu être un homme de lettres européen, tant qu'il venait de l'Argentine. Il a voulu étudier des langues européennes, il a employé des outils symboliques européens comme le miroir, le labyrinthe, mais avec une langue qui vient de l'autre côté de la mer. Avec une langue cultivée qui vient des grandes plaines de l'Argentine. Donc c'est un mélange qui me le rend obligatoire pour moi. Une suggestion, le seul obligatoire du XXe siècle. Je me suis trouvé une fois à Buenos Aires. Alors, je suis allé voir le cimetière de la Recoleta, où il y a le tombeau de famille de Borges, mais il n'était pas là. Je me trompais, je le savais qu'il n'était pas là, mais j'avais décidé que, évidemment, ce jour-là, de me tromper. Et le soir, que je me promenais dans la rue de Buenos Aires, je viens de tomber exactement sous la maison de Borges.
Ça va alors, vous aviez quand même rendez-vous avec lui.
Donc il m'a voulu remercier de ce passage à vide. En me faisant passer sous sa maison, il y a une plaque, une targue. Et des mois après, je suis allé à Genève, là où il y a la tombe de Borges, je suis allé m'agenouiller à cette tombe.
Comme quoi vous croyez un peu aux signes, parce que le fils qui vous interroge, Éric Deluca, dans ce texte-là, Le Tour de l'Oie, il vous reproche, il lui dit « tu t'accroches à des signes, tu es superstitieux, qu'est-ce que c'est que cette manière de vivre ?» Et vous lui expliquez que quand même, ça fait sens de temps en temps, les signes.
Il y a plein de signes auxquels nous, moi au moins, je n'arrive pas à les percevoir, mais qui se produisent. Continuellement. Mais en tant que Napolitain, nous sommes des personnes qui se sont spécialisées à capter, à rendre utiles les signes. Nous avons toute une interprétation des rêves qui doivent produire des nombres, qui doivent produire des possibilités d'extraire de la fortune de la sortie des nombres à la loterie. Donc il y a les endroits où on faisait ça, et on allait jouer les numéros. C'était des lieux de psychanalyse collective. On racontait les rêves, on parlait avec la personne, et il décidait, non, mais ça, c'est, tu dois jouer ce numéro, et à côté de celle, pour 3 semaines, non, 4 semaines, des fois. Et il dispensait les sous pour. Et il y avait aussi de la possibilité d'avoir de la chance. Les morts, on ne les laissait pas tranquilles, parce qu'ils devaient venir à suggérer des nombres.
Les morts non plus ne vous laissent pas tranquille, Eridulka, dans ce texte-là, parce que votre père vient vous visiter, votre mère aussi, et puis vous les appelez, vous les convoquez d'une certaine manière. Vous racontez la première fois que votre père lit un texte que vous-même avez écrit. Et moi, j'ai eu l'impression que c'est comme s'il mourait tout de suite après.
Il ne pouvait pas plus le lire, le texte. C'est ma mère qui lui avait fait la lecture. Mais il a eu un temps pour le toucher, ce livre. Et alors, il l'a ouvert, il a mis le nez dans le centre de la page ouverte, il a reniflé l'odeur de cette page. Ça était un signe pour moi, le fait de par hasard d'avoir ce livre à lui offrir. C'était par hasard parce que je n'envoyais pas des manuscrits aux éditeurs. C'était passé par une coïncidence curieuse. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'il a eu tout à coup un sentiment d'une autre possibilité de son fils. Parce que j'étais un fils de. J'avais plus de 40 ans, j'avais 40 ans, je faisais ce métier d'ouvrier, j'étais encore dans la liste noire des polices et des carabiniers, donc c'était pas une imagination du futur
Non,
pour lui. Il n'avait pas une imagination de mon futur. Et comme ça, il a eu une imagination de mon futur.
Est-ce que vous vous attendiez à ce que vos parents reviennent aussi fortement en écrivant ce texte-là ?
Ils arrivent. Ils m'arrivent souvent, même quand je n'écris pas. Dès que la maison que j'habite et que j'ai bâtie, c'est la maison où ils sont morts tous les deux, ils vont mourir chez moi. Donc, alors, ils sont dans l'ambiance. Donc, je peux les convoquer ou ils se présentent avec les voix.
Et vous racontez notamment, par exemple, dans cette maison, que lorsque l'électricité s'arrête, comme ce soir d'orage que vous imaginez, votre mère, lorsqu'elle était vivante, n'aimait pas vivre à la lueur de la bougie. Vous lui prêtiez une lampe frontale que vous utilisez dans la montagne Eridulka. Pourquoi ?
Oui, parce qu'elle avait vécu toute une adolescence pendant la guerre avec les bougies, parce que par les bombardements. On lui marquait toutes les nuits de sa vie. Elle s'est réveillée toutes les nuits de sa vie avec le son de la sirène de l'alarme aérienne. Pas le son des bombes, des explosions, mais le son de la sirène de l'alarme aérienne, que je considère comme la colonne sonore du XXe siècle. Pour moi, le bombardement aérien d'une ville est l'acte de terrorisme par excellence. Ça veut dire que c'est l'acte qui veut détruire et terroriser le nombre majeur de vies, de personnes prises sans défense chez eux, dans leur vie quotidienne, vieux, femmes, enfants. Le produit lourd de la guerre moderne est le produit de la destruction majeure des vies humaines, des gens civils plutôt que des soldats. Ça, c'est la guerre moderne. L'introduction de la guerre commence avec la guerre civile espagnole. C'est le produit de la guerre moderne. Donc pour moi, le bombardement aérien d'une ville est un acte criminel par excellence. Et c'est pour ça que quand on a commencé à être bombardé, Belgrade et les autres villes à la fin de l'autre siècle, je me suis détourné. Je suis allé là.
C'est ce que j'allais dire, c'est à la fois une colonne sonore du XXe siècle pour vous, Eridulka, et c'est aussi dans votre texte une manière de vous relier à votre mère qui, toutes les nuits, revit la terreur de la sirène qui annonce le bombardement. Et ça vous permet de répondre à ce fils imaginaire et de lui raconter aussi ces moments à Belgrade, à Sarajevo, où vous vous êtes, comme vous dites, déplacé. Ça veut dire que c'était comme une sorte d'aimant, vous ne pouviez pas être ailleurs que là-bas, à ce moment-là.
Exactement, exactement. Mais ce n'est pas quelque chose à revendiquer. C'est l'effet d'une éducation sentimentale du XXe siècle, qui vient, par exemple, dans le cas de ma mère, dans les bombardements aériens. Et Naples a été la ville plus bombardée d'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais le curieux, c'était que ce cauchemar est resté figé dans elle. Mais quand on racontait ces histoires de bombardement, il y avait toujours quelque côté comique à extraire. Il fallait toujours jeter cet enjambement au tragique qui était le détail comique. Et j'ai compris après que s'agissait du fait que seulement comme ça, on pouvait redire, revenir sur l'argument et avoir encore envie de le redire. Le redire, c'est le réduire aussi.
Votre fils imaginaire dans ce texte, il dit que vous n'êtes pas assez comique, que vous n'êtes pas capable de faire des blagues et que c'était une pénurie pour un homme et pour un auteur. Vous êtes sévère quand même.
Non, c'est vrai. Je n'aime pas les histoires qui servent à faire rire. Ça me plaît d'inventer une blague tout sur le moment, ça m'amuse de faire rire quelqu'un. Mais l'histoire qui fait rire, ça m'irrite, je suis irrité, je ne l'aime pas. Et donc même cette histoire qui s'est produite à moi, je en raconte lui une assez drôle, comique, qui est arrivée à moi, il dit « mais tu me fais pas rire ». Donc tu n'es pas capable, tu es en déficit comme raconteur, c'est vrai.
C'est un fils qui ne vous épargne pas, mais c'est un fils qui vous permet, on l'a dit tout à l'heure, de faire revenir par exemple votre père et votre mère et raconter leur rencontre.
Ils se sont parlé la première fois accoudés à la balustrade d'un balcon qui donnait sur le port de la Mergellina. Les balcons existaient autrefois. La guerre était finie, personne n'en parlait. Les décombres, restés sur place pendant des années, étaient ignorés des regards. La consigne était d'oublier. Ceux qui se risquaient à évoquer un épisode devaient le faire sur le mode de la plaisanterie, sinon on les faisait taire. Ces deux-là, au balcon, d'une tiède soirée, se parlaient d'avenir. Ils se le réservaient comme un voyage dont on achète le billet. Il y avait des Américains partout. C'était un temps d'affaires, d'argent rapide. Lui savait l'anglais. Il lui parlait d'Amérique, de l'endroit d'où était venue sa mère. Il cherchait à la séduire pour sonder son esprit d'aventure. Elle voulait Naples. Il buvait du vin, fumait du tabac américain, promirent de se revoir. Tous les deux avaient des amours en cours, qui cessèrent par la force majeure d'un soir au balcon. J'ai des photos de maman jeune. Je ne l'aurais pas abordé à une fête. Je n'aurais pas eu la désinvolture de l'après-guerre. Quelqu'un pouvait vous présenter. Tu n'as pas l'habitude des fêtes, mais ça se passe comme ça. Même avec ce coup de pouce, j'aurais toujours été emprunté. La beauté d'une femme m'intimide. Il fallait une guerre derrière soi pour pouvoir se regarder droit dans les yeux et imaginer des noces, une maison, des enfants. Eux parlaient de l'avenir. Toi, tu ressasses le passé. Leur avenir me croisait. Il est normal que je parle d'eux maintenant. J'ai été leur avenir. Je te parle, mais si ça ne t'intéresse pas, je laisse tomber.
Tant d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois, tu pris ton bagage. Mille fois, je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. hauteur. Le rien ne ressemblait à rien. J'avais perdu le goût de l'eau. Et moi, celui de la conquête. Mon amour. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Je t'ai gardé de piège en piège. Tu m'as perdu de temps en temps. Bien sûr, je pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-il pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, je pleure un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères, on fait moins confiance au hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Je t'aime, tu sais, je t'aime, je t'aime.
C'est Juliette Gréco qui interprète la chanson de Brel, mais vous la préférez par Brel?
Oui, c'est. C'est la chanson, chanson d'un homme.
C'est la chanson d'un homme, Éric Delucas, pourquoi?
Parce qu'il a une tendresse démunie et sans espoir face à la force majeure de la présence de l'autre, de la femme.
Et ça, vous pensez que ça ne peut pas s'inverser?
Non, non. Mais ça, c'est aussi... Ça me plaît aussi parce que je partage le même sentiment d'infériorité.
Que Jacques Brel, vous pensez?
Que Brel avait dans cette chanson, oui.
À l'égard des femmes?
À l'égard des femmes, si. À l'égard des femmes. Mais où sont partis les balcons? Je vois les maisons ici, maintenant, face à nous, de l'autre côté. Les architectes ont effacé les balcons.
Ah, il en reste quelques-uns. Vous dites ça, Éric Delucas, parce que juste avant, Romain de Bec de Lièvre, lisez la rencontre de vos deux parents que vous écrivez, Éric Delucas. Alors, par définition, vous n'étiez pas là, donc c'est une rencontre qu'on vous a racontée sur ce balcon.
Exactement.
Qui vous l'a racontée?
Ma mère. Et aussi, ma grand-mère s'était fiancée au balcon. Parce qu'on sortissait, on ne sortait pas régulièrement. Donc, le dimanche, oui, mais sinon, il restait sur le balcon à se faire voir, à faire quelques activités sur le balcon, et passer le jeune homme qui essayait d'établir un rendez-vous avec les yeux. Donc, c'était les balcons, le contact. C'était quand je vois une maison sans balcon, c'est une maison sans face. Il n'y a pas de face. C'est caché, c'est voilé, c'est le burqa sur le face.
C'est aussi une maison sans possibilité d'amour, puisque vous dites d'une certaine manière, le balcon, c'est aussi le moment où l'audace a été possible. Mais vous dites, Eri De Luca, que si l'audace a été possible entre vos deux parents, c'est parce qu'il y avait eu la guerre. C'est la guerre qui aurait permis ce face-à-face amoureux pour vous.
Oui, parce que la guerre avait déchaîné l'après-guerre d'une volonté de reconstruire les villes et remplir les vides. C'est toute cette force qui se déchaîne dans une communauté et qui alimente les fibres d'une reprise, d'une résurrection de la vie. Donc, je suis quelqu'un qui est né dans l'après-guerre parmi une génération qui était si nombreuse que même l'armée ne pouvait pas nous embaucher tous. Il y avait, nous sommes plus nombreux de la possibilité de l'armée de nous prendre tous.
La chance.
Donc c'était la guerre qui avait permis cette intimité, cette volonté de reconstruire et de faire renaître le pays.
Dans votre livre, vous racontez aussi des baisers, des premiers baisers, et vous dites, mais il est très beau ce passage, parce que vous cassez la figure devant cette femme que vous allez embrasser pour la première fois, et elle ne rit pas. Oui, et c'est très important pour vous que, face à votre maladresse et votre chute, elle ne rit pas.
Si. Elle a eu cette générosité, cette sérieté. Cette sévérité intérieure qui l'empêchait de rire du maladroit du garçon qu'elle avait face à elle et qui n'avait même pas eu le courage de le demander de baiser ses lèvres. J'avais écrit un message, je l'avais fait avoir parce que j'avais le peur même de prononcer ces mots. Et elle n'a pas ri. Et donc, c'est pour ça que je peux encore écrire et sourire de ça. Si elle aurait ri, j'aurais dû effacer dans moi le souvenir.
Y compris le souvenir de ce baiser. C'est un moment où on vous voit exister dans votre corps de jeunesse. Et puis, il y a d'autres moments où la question du corps est très présente. Eri De Luca, parce que vous dites que ce fils que vous imaginez ne prend pas, en tout cas c'est peut-être lui qui le dit, ne prend pas la responsabilité du corps de chair et d'os, qu'il ne veut pas prendre cette responsabilité-là. Et puis, plus tard, vous revenez sur la question du corps en parlant de l'expérience du jeûne et de l'absence de nourriture et de comment ça vous a permis de connaître votre corps autrement, comme si ce texte était aussi un endroit pour vous de réfléchir sur ce que c'est qu'une enveloppe corporelle pour traverser une vie.
Oui, et la sensation, c'est que cette enveloppe corporelle, c'est plus ancien que moi. Mais beaucoup, beaucoup plus ancien que moi. C'est un format physique qui a été expérimenté, sélectionné à travers milliers de générations qui se sont trouvées dans des conditions terribles. Et qui ont donc sélectionné des résistances, des forces de résistance, la possibilité des longues gènes, par survivre. Et nous sommes des animaux qui peuvent perdre une grande partie de leur poids corporel sans mourir. Donc c'est un animal très ancien, le corps que j'habite maintenant, et je ne le connais pas.
Et votre fils imaginaire vous dit, mais tu l'as malmené, c'est pas bien de l'avoir malmené comme ça. Il vous engueule un petit peu quand même. Il dit, à quoi ça servait de lui faire si mal? Et vous trouvez des mots pour lui répondre?
Oui, je les écris, mais je me souviens que j'aurais pu dire que ce corps ne s'est même pas aperçu que je le traitais mal, tant qu'il est expérimenté au pire.
Vous racontez que vous avez toujours découvert que votre réserve d'énergie et de force était bien plus large que ce que vous croyez.
Toutes les fois que je me suis imaginé d'avoir rejoint la frontière des ressources et de l'épuisement, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose en plus, que le corps avait gardé une petite réserve pour lui, qu'il se faisait pas toucher l'extrémité.
Même au moment que vous racontez dans un couloir d'hôpital où le noir vous arrive et vous avez l'impression que c'est la mort et c'est encore pas la mort.
C'était la mort parce que c'était un infarctus avec arrêt du bas cardiaque qui s'est répété trois fois dans peu de minutes. Donc c'était une mort qui était à la sans autre sentiment que un certain regret de ne pas avoir dit adieu à ma mère. C'était ça le sentiment que j'avais entre les
retours de
les
conscience.
Chocs, oui, les retours de conscience dus à la défibrillateur.
Vous vous disiez juste, ah bon, c'est ça alors, c'est ça mourir.
C'est ça. Et c'était une mécanique élémentaire. C'était pas une catastrophe, une tragédie.
Est-ce que ça vous a permis, Edou Leca, de, comme vous l'écrivez, de considérer que toutes les minutes qui arrivaient après étaient des minutes additionnelles en plus ?
Toujours. Je suis dans les prolongations.
Siamo operai, compagni braccianti e gente dei quartieri. Siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. L'unica cosa che ci rimane è questa nostra vita. Allora compagni, usiamola insieme prima che sia finita.
Tu dis que tu as été un révolutionnaire, mais que tu ne peux rien raconter de concret. Au moins un détail, pour me faire comprendre. Que fait un révolutionnaire avant d'entrer en action ? Un geste ? Une préparation quelconque ? Il prend une douche, change de sous-vêtements, vide son intestin si possible, et, avant de sortir de chez lui, il lasse bien ses souliers. C'est un geste de recueillement. Se pencher et faire soigneusement les deux nœuds. Rien de spécial. C'est ce qu'on fait après qui compte. Que vouliez-vous faire ? Prendre le pouvoir ? Car si c'était ça, ce fut un fiasco total. Le pouvoir importait peu. C'était nous battre pour des objectifs simples, accessibles, qui nous intéressaient. À l'usine, on gagnait des droits d'allègement, comme la demi-heure de cantine incluse dans les 8 heures quotidiennes. On volait de force une demi-heure de pause payée. Nous résistions à l'obligation d'heures supplémentaires. Et ainsi l'entreprise, qui avait besoin d'une production plus importante, était obligée d'embaucher des chômeurs. Dans un quartier, nous organisions maison par maison l'autoréduction des factures d'électricité. L'industrie payait 8 lire le kilowatt-heure, et une famille en payait 24. Alors on organisait le paiement sur la base de 8 lire. Si on coupait l'électricité, nous résistions aux coupures. En somme, vous faisiez des améliorations, des réformes. Oui, mais d'en bas. Nous faisions valoir nos propres droits en diffusant la conscience de posséder une force civique indépendante. Je ne vois là rien de révolutionnaire. Il ne s'agissait pas pour nous de nous contenter du résultat, car il ne mettait pas un terme à notre tâche. nous pratiquions une société de réciprocité, de l'un pour l'autre. Nous visions au-delà de la cible. Tu as raison, ces conquêtes étaient des améliorations, pas une révolution. Ce mot concernait nos méthodes. On n'obtenait rien par les bonnes manières. Être révolutionnaire n'avait rien de romantique. Les pouvoirs voulaient nous réprimer. Police, magistrature, arrestation. Ils n'arrivaient pas à nous stopper. Nous avions un gigantesque réseau de personnes qui hébergeaient ceux des nôtres qui étaient recherchés. Nous étions partout.
Éric De Luca, Romain de Bec de Lièvre lit un nouvel extrait de votre texte « Le tour de l'oie » et ce dialogue avec le fils qui apparaît un soir de nuit à la lueur des flammes dans la cheminée et qui vous interroge sur votre existence et notamment sur ce mot-là, ce que c'est que d'être révolutionnaire. Alors vous lui répondez ce qu'on vient d'entendre et puis un petit peu plus tôt dans le texte, je crois que vous dites aussi que être révolutionnaire parfois c'est simplement une cordialité. C'est aussi la manière dont on s'attarde sur chacun des êtres que nous croisons dans nos existences et comment nous les regardons et comment nous leur parlons et comment nous faisons que leur existence a une importance et un poids. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux, toutes les actions qui sont décrites là et la cordialité quotidienne dont vous parlez ?
Bien sûr, il y a une hiérarchie et une grande différence. La différence, c'était celle d'appartenir à une communauté. De personnes qui se battaient ensemble, qui mettaient tous ensemble. Tous les petits miettes de leur vie étaient confiés l'un à l'autre. Et l'autre, la question de la cordialité ou d'un sentiment de fraternité, ça c'est quelque chose qui reste imprimé dans la, comme effet secondaire de cette expérience. Et donc je l'applique un peu à l'aveugle avec les personnes que je rencontre. Je m'imagine que le jeune homme que j'étais comme révolutionnaire pouvait rencontrer l'homme adulte et ancien que je suis maintenant et puisse encore imaginer que c'est sa suite et qu'on pourrait encore lui serrer la main.
Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de trahison dans le temps qui passe, il n'y a pas de trahison dans la manière dont votre action et votre vie se transforment, Éric De Luca.
Je crois de garder une loyauté face aux raisons de cette génération d'insurgés et les actions que nous avons accomplies, commis.
Et comment est-ce qu'il vous regarde, ce fils ? Il vous regarde en doutant que vous ayez été révolutionnaire, ce fils que vous inventez ?
Non, il essaie de s'imaginer lui-même dans ce format public, politique, tant qu'il est seul. Il est complètement isolé dans son temps et face à moi. Donc il me regarde comme si je suis une espèce de foule de personnes qui changent d'habit comme dans une comédie. Et ce sont tous des changements de case dans ce parcours du jeu de loi.
D'ailleurs, parfois, il vous dit « Est-ce que je dois te dire tu ou est-ce que je dois te dire vous ?» parce que j'ai l'impression que tu es une multitude.
Oui, si. Si on est une multitude, chacun de nous est une multitude, ne se réduit pas à la singularité d'un papier, d'un document d'identité. Notre identité est multiple. Aussi, à mon âge, je suis aussi un reste général de ce qui n'existe plus. Donc qu'il se retrouve dans moi et qu'il continue leur présence à travers le fait que je me souviens d'eux et que je peux réécouter leur voix, pas à travers quelques registrateurs, non, à travers des moments de solitude que je traverse régulièrement dans ma vie.
À la fin du texte, c'est une créature imaginaire que vous laissez repartir. Est-ce que vous avez eu de la tristesse à le faire disparaître ? Ce fils imaginaire ?
Non, pas la tristesse, mais la question. À la fin, je lui demande s'il veut prendre ma place. Parce qu'il pourrait ajouter quelque chose à cette de différent et de plus consistant, avec un regard plus clair et moins perturbé par le XXe siècle et par les sentiments que se sont accumulés dans moi. Donc, s'il veut continuer à ma place, il refuse.
Et vous savez pourquoi ?
Il me l'explique. Il ne veut pas se réduire à une identité, il ne veut pas se lever tôt le matin et se mettre sur des pages d'une langue ancienne et désertique, comme l'ancien hébreu. Il ne veut pas mettre ses pas dans mes ormes. Donc il ne veut pas.
Est-ce que ça a changé quelque chose profondément en vous d'avoir écrit ce texte, Eri De Luca ?
Pendant que je l'écrivais. Pendant que je l'écrivais, je me suis trouvé face à face à un compte rendu envers cette personne qui avait cette autorité de me demander ce compte rendu.
Une autorité que vous respectiez.
Et si. Et que je respecte encore, j'imagine.
Et une fois que le texte a été terminé, c'était terminé.
C'est terminé. Ça veut dire, pour moi, quand j'écris quelque chose sur un cahier, c'est pas terminé. Parce que là, je décide de le recopier. Je ne peux pas le relire, parce que la lecture est trop vite sur les lignes. Alors seulement le recopier me permet de rentrer dans la voie qui m'a entamée pour la première fois. Et donc je le recopie une deuxième fois. Et après, je le recopie une troisième fois. Et seulement après la troisième fois, je sais que j'ai pris congé. Après, je le tape avec deux doigts sur l'ordinateur et je le consigne.
Merci beaucoup, Eri De Luca. Le tour de loi, traduit de l'italien par Daniel Valin et paru aux éditions Gallimard. Ce soir au son, c'était Fabien Capel, à la réalisation Sonia Leglen. Un grand merci à Jeanne Aléos, Assa Traoré, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Parler Ton qui court. Une très belle soirée à vous et à demain. Is anybody here? You from beyond? I wonder why.